Vous écoutez
RMC. RMC. Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les députés font leur rentrée aujourd'hui à l'Assemblée et avant le chantier du budget, eh bien ils se lancent dans l'examen de la proposition de loi contre les violences sexuelles. Trois mois après la dramatique affaire Liana, on va largement en parler. Nous irons en Allemagne dans ce journal où l'extrême droite est aux portes du pouvoir dans un de ses bastions de l'Est du pays après sa large victoire aux élections régionales. Et nous serons également à l'US Open de tennis avant le match d'Arthur Géa, la sensation française repêchée après les qualifications et qui jouera la nuit prochaine à 8 de finale.
Trois mois après l'affaire Liana, place donc à la loi.
Oui, chacun se souvient de cette dramatique affaire qui avait mis en lumière les failles de notre système judiciaire. Et bien avant même de se lancer dans le chantier du budget, les députés discuteront à partir d'aujourd'hui en commission, puis le mois prochain dans l'hémicycle, de la proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles. Thomas Becker, du service politique, avec cette loi, l'idée eh bien, c'est de couvrir toute la chaîne de violence.
Oui, d'abord dans la police, avec la création d'une unité spéciale au sein de la police judiciaire pour traiter les cas de violences sexistes et sexuelles. Changement pour les méthodes d'enquête, revues pour préserver les preuves et rechercher d'autres victimes avant un potentiel classement. Côté justice, mise en place d'une juridiction spécialisée dans les tribunaux et les cours d'assises. À l'école, les enfants, dès la maternelle, auront un entretien annuel pour détecter des victimes potentielles. Le texte prévoit aussi un contrôle d'honorabilité pour toutes les personnes susceptibles d'être en contact avec des enfants. Une soixantaine de mesures de formation, d'écoute, d'accompagnement. Budget estimé 3 milliards d'euros par an. La ministre Aurore Berger juge que le coût de la réforme ne sera pas un obstacle, alors même que le gouvernement, à la veille du débat budgétaire, est en pleine recherche d'économie.
Et ça reprend comme avant les grandes vacances. De nouvelles manifestations sont annoncées devant les tribunaux partout en France en fin de journée. On attend toujours les résultats définitifs ce matin en Allemagne pour connaître l'ampleur de la victoire de l'AfD, le parti d'extrême droite aux élections régionales de Saxe-Anhalt. Saxe-Anhalt, c'est un de ses bastions dans l'est du pays. L'AfD est donnée à 44% des voix, loin devant le parti du chancelier conservateur à même pas 18%. On va retrouver Clémence Dibou qui est sur place. Aucun parti d'extrême droite n'a dirigé de région en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui donne une portée historique à ce vote. Et la secousse se ressent au niveau national.
Les dirigeants de la CDU, le parti conservateur au pouvoir et en Saxe-Anhalt et à Berlin, avaient prévu, en cas de large victoire de l'AfD, il faudrait une prise de parole non plus au niveau local mais au niveau national. Ça devrait être fait aux alentours de midi avec la prise de parole de Friedrich Merz, le chancelier conservateur, qui s'était engagé personnellement à faire baisser le score de l'AfD. On voit donc que ce résultat a des répercussions nationales. Nationales aussi des répercussions dans le camp des sociaux-démocrates avec des démissions en cascade, avec des résultats catastrophique, moins de 5% désormais. Eh bien, l'enjeu, c'est de faire une large alliance de barrage à l'extrême droite, des conservateurs jusqu'à l'extrême gauche. Ça reste encore très compliqué vu les scores très élevés de l'AfD. L'AfD qui a expliqué qu'elle essaierait de faire des alliances, mais qu'elle n'avait aucune envie de faire aucun compromis sur son programme. Et ses scores sont tellement hauts qu'elle est à quelques sièges de pouvoir gouverner seule.
Et alors cette élection en Allemagne anime depuis hier soir la campagne présidentielle chez nous en France. Romain Hougan direct ce matin. La gauche et le centre s'inquiètent de ce résultat.
Oui, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. C'est une catastrophique démonstration de l'aveuglement des politiques européennes centristes, écrit le candidat LFI à la présidentielle sur ses réseaux sociaux. Ce n'est plus un avertissement, c'est un ordre de mobilisation générale qu'il faut lancer, écrit quant à lui le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui sera d'ailleurs l'invité d'Apolline de Malherbe dans une demi-heure. Au centre de l'échiquier politique, c'est Gabriel Attal, chef de file et candidat du parti présidentiel, qui fait part de ses préoccupations. Ce résultat est un vrai signal d'alarme dont il faut tirer les enseignements, dit-il. Enfin, du côté du Rassemblement National, autrefois allié européen de l'AfD, silence radio depuis hier soir. Ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont pour l'heure commenté ce résultat.
La campagne présidentielle est aussi animée par Marine Le Pen qui écrit au Buraliste une lettre publiée hier soir dans laquelle elle défend le gel des taxes sur le tabac au moment où la Confédération des Buralistes appelle à la mobilisation face à la hausse des prix et l'essor du marché parallèle. C'est aussi la campagne, elle est aussi animée par cet appel lancé par le patron des magasins Casino pour aider les commerçants des centres-villes et des zones rurales. En expliquant que les commerçants se détournent de plus en plus des grandes surfaces loin des centres, la preuve ici, vous allez entendre à Aix-en-Provence avec Charlotte Guerre.
Ses courses du quotidien, Jérôme préfère les faire à pied et en ville. Il a en horreur les grandes surfaces.
Mais on perd trop de temps. D'abord, c'est la circulation, c'est du stress. Passer
plus d'une heure dans un supermarché, c'est pas possible.
Ce professeur de lettres a même ses petites habitudes.
Les produits d'entretien, je vais les prendre là. Les produits du petit déjeuner, je vais les prendre là, les céréales, les produits, voilà. J'ai ma petite liste, mais ça c'est aussi ce qui s'est fait avec le temps.
Avec des loyers moins élevés et plus de stocks, les hypermarchés restent attractifs avec des prix plus bas, même s'ils sont en dehors des villes.
En mettant même 20 euros de gasoil, c'est plus rentable de partir loin dans une grande surface que partir à côté faire mes courses.
Je fais mes courses avec un drive parce que en fait les magasins de proximité sont super chers.
Ce trentenaire n'a pas le permis, lui se fait livrer ses courses directement chez lui.
Même si le coût des produits est un peu plus élevé sur une livraison, il reste quand même moins élevé que celui dans les petites supérettes.
Mais il l'admet, les commerces de proximité restent pratiques pour les courses d'appoint, un enjeu d'autant plus important que plus de 6 communes sur 10 ne disposent aujourd'hui d'aucun commerce de détail.
C'est la très belle histoire de l'US Open de tennis qui a lieu en ce moment, vous le savez, aux États-Unis, à New York. Il y reste un Français, c'est le jeune Arthur Géa, âgé seulement de 21 ans. Il s'était même pas qualifié pour le tournoi final, repêché à la dernière minute après un abandon. Il joue crânement sa chance depuis et il va donc se retrouver la nuit prochaine à disputer un huitième de finale contre un joueur néerlandais. Eric Salio, vous couvrez l'US Open. On imagine que ses proches et en premier lieu sa maman sont fiers.
Oui, Cécile Géa a quitté son petit village du Vaucluse pour rallier New York. Et même si elle se refuse à voir les matchs en tribune, elle reconnaît les qualités de son fils.
Il est très travailleur, il est besogneux, il aime la difficulté, il aime les challenges. Il a monté le Ventoux avec son père alors qu'il n'était pas du tout entraîné. Et s'il pouvait, il monterait le Mont Blanc et pourquoi pas l'Everest. Il aime se challenger sur des grosses performances. C'est un garçon qui a beaucoup d'émotions et qui vit avec ses émotions.
La maman d'Arthur Géa sait que l'atmosphère est unique à Velleron, près de Carpentras.
Il y a un bar où il y a l'écran géant. Personne ne dort le jour des matchs parce que moi j'ai halluciné. Jusqu'à 3h du matin, je recevais des messages. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dormez pas? Ah non, non. On a regardé les matchs. Arthur, c'est un enfant du village. Mon mari est allé à l'école dans ce village. C'est vraiment une grosse communauté et tout le monde est très fier d'Arthur. Et ça, c'est génial.
Ce soir, c'est toute la France qui vibrera pour le 8e de finale d'Arthur Géa face au néerlandais Botik van de Sandschoop.
Bon, et puis on se demandait à quoi allait ressembler la saison en football de l'Olympique de Marseille sans aucune recrue, vous le savez, durant l'été. Eh bien, on en a une petite idée hein, depuis hier soir et la nouvelle défaite des Marseillais battue 3-2 par le Paris FC, ça se passait au Vélodrome. Tiens, qu'en dit l'entraîneur de l'OM, Bruno Genesio?
On a fait une entame catastrophique. Je trouve qu'après, on a pris le dessus, on a plutôt maîtrisé. Et après, on en a un petit peu tout confondu jusqu'à la mi-temps. C'est un peu précipité, on a manqué de lucidité. On a laissé beaucoup trop d'espace à cette équipe qui a exploité au maximum toutes les erreurs qu'on a pu faire parce qu'on ne peut pas espérer un autre résultat avec le nombre d'erreurs défensives que l'on a faites.
Allez, c'est Monaco qui est en tête de la Ligue 1 après 3 journées.